Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, nous sommes à nouveau au château de Lantis et cette fois-ci avec un petit peu de chagrin pour la dernière émission. Mais pas des moindres, puisque nous allons découvrir une pièce absolument exceptionnelle, avec un sol exceptionnel également. Bonjour Françoise.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Martine et Marie-Madeleine.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour Françoise, bonjour à tous.
Alors, nous sommes sortis de cette chambre de seigneuriale. Nous sommes dans ce petit couloir, on va dire, et vous allez nous ouvrir une autre porte qui est juste en face de celle de la chambre seigneuriale. Françoise, nous y allons et vous allez découvrir quelque chose de fabuleux. Voilà, et là j'ouvre les yeux grands parce que c'est remarquable. Françoise, ce sol, vous pouvez nous en parler ?
Alors, cette pièce nous a beaucoup étonnés. Nous sommes arrivés par le plafond de cette pièce, mm-hmm. puisque le château était rempli de gravats. Et au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, peut-on dire, nous avons découvert un sol tout à fait particulier, qui était encore en mauvais état, mais qui était posé sur le in situ. Alors, ça s'appelle une escarboucle à huit raies. L'escarboucle, c'est une symbolique de l'alchimie. Donc cette salle, qui était une chambre noble, était aussi une salle d'alchimie. Il faut savoir que tous les grands seigneurs se voulaient médecins, mathématiciens et alchimistes. On cherchait le nombre d'or, l'immortalité. Alors c'est une pièce qui est trapézoïdale, en fait. Et comprend huit raies, donc huit branches, que nous appelions, avant de connaître le nom, nous disions que c'était une étoile. Le centre de cette pièce est très curieux, puisque on a huit pierres qui se termine par huit angles différents. Donc ça, c'est très curieux. Et autour de cette escarboucle, une allée de pierres. Et nous ne connaissons pas exactement le pourquoi ni l'origine de cette figure emblématique.
Alors, il y a des pierres blanches et des pierres tomettes un petit peu, des pierres couleur tomettes. Vous pouvez nous en donner quelques explications ?
Alors, entre les raies de cette escarboucle, il y avait les tomettes, donc des petites tomettes en 10 sur 10, qui sont d'origine et que nous avons reposées, puisque tout a été reposé sur sable et chaux.
Alors, pour arriver à ce sol en escarboucle, Françoise, lorsque nous entrons dans cette pièce, nous apercevons en face un lit, toujours avec au-dessus.
Alors le ciel de lit et les courtines.
Voilà. Alors vous pouvez nous expliquer par rapport à ce lit et par rapport à ce sol, comment vous êtes entrée dans cette pièce ? Parce que je crois que vous avez commencé à partir de ce pigeonnier à rentrer par cette pièce.
Effectivement, le haut de notre colline correspond au plafond de cette salle, de cette pièce. Donc nous avons commencé par enlever la végétation, puis des pierres, alors des belles pierres taillées. Nous ignorions que nous étions en train de démonter le haut du château. Et puis après on va comprendre que c'est un mur. Nous allons continuer dans notre cheminement sur la colline, bien sûr, et nous allons découvrir un mur creux, c'est-à-dire un mur avec une anfractuosité dedans, et nous allons nous apercevoir que c'est un conduit de cheminée. Nous allons dégager, excaver ce conduit et à notre grande surprise, découvrir une belle cheminée en pierre qui est voilà, dans son jus.
Voilà, juste en face du lit.
Juste en face du lit. Et en continuant au pied de la cheminée, nous allons découvrir ce très beau sol emblématique d'une salle d'alchimie. Alors, sans doute, y avait-il des fresques sur les murs, mais évidemment, dans la terre, cela n'a pas résisté. Par contre, le sol est resté.
En fait, vous avez récupéré certaines pierres qui étaient tombées un peu plus bas, je pense.
Effectivement, le centre de l'escarboucle correspondait à l'écroulement de la voûte de la cuisine, dont j'ai parlé précédemment dans une autre émission. Et nous avons retrouvé toutes les pierres. Alors, elles ont été remontées, mais le souci était que les pierres anciennes font du 15 d'épaisseur. Et pour les autorités monuments historiques, pour l'architecte des bâtiments de France, c'était beaucoup trop lourd à reposer sur une voûte restaurée. Et il nous a demandé de recréer stricto sensu les raies de l'escarboucle avec des pierres qui font du 5 d'épaisseur, ce qui permet d'alléger la voûte. Et effectivement, depuis 15 ans, elle n'a jamais bougé.
Alors, Marie-Madeleine, vous sembliez, tout comme moi, découvrir ce sol remarquable. Est-ce que vous en aviez déjà vu ?
Jamais. Jamais. J'ai découvert ce mot d'escarboucle que je connaissais dans le vocabulaire, je ne dirais pas courant, mais enfin, qui existe. Mais je ne m'imaginais pas que c'était cette forme-là d'étoile. Je pensais que c'était une boucle, hein, escarboucle, bon, c'est idiot peut-être, mais voilà. Et donc là, c'est en forme d'étoile, et c'est vraiment magnifique.
Alors, Françoise, vous avez donc, vous avez commencé par rentrer dans cette pièce en haut du lit, en fait, juste au-dessus de ce, comment on appelle déjà ?
Un ciel de lit.
Voilà, ce ciel de lit. Vous avez petit à petit découvert, c'est la première pièce que vous avez découvert, en
Tout
fait.
Tout à fait.
Voilà, avec le haut du lit, vous êtes arrivé sur la cheminée et vous avez découvert ce magnifique sol. Et vous avez continué comment parce que vous avez découvert tout ceci, mais après, il a fallu continuer à avancer dans tout ce que vous découvriez au fur et à mesure.
Exactement. Alors, un endroit, nous avons bien remarqué qu'il y avait un coup de sabre, puisque les murs sont bâtis croisés, les pierres croisées. Et là, il y avait un trou, donc nous sommes aventurés à plat ventre dans le trou et bien sûr au milieu de la terre, et nous avons commencé à découvrir l'escalier de cette façon.
C'est absolument extraordinaire. Quand nous disions, Marie-Madeleine, nous le disions à chaque fois, une surprise à chaque pas, à chaque main, presque.
C'est tout à fait ça, voilà. Château de Lantis.
Alors, dans cette pièce qui est également maintenant aujourd'hui une chambre, il y a tout de suite, à gauche et à droite de l'entrée, des tentures. Marie-Madeleine
Oui, des tentures asiatiques, probablement vietnamiennes ou thaïlandaises, chinoises. Voilà. Donc ici, il y a une tenture assez ancienne.
À gauche de l'entrée.
Avec un décor de lyre et de vases fleuris sur un fond bleu un peu turquoise. Un décor argenté qui est assez belle. Et puis deux tentures donc aux oiseaux dans des branchages tout à fait chinois et avec de très beaux oiseaux très colorés sur un fond doré.
D'accord, donc ces tentures se trouvent à droite de la porte d'entrée. Est-ce que la porte, Françoise, serait d'origine ?
Alors, la porte n'est pas d'origine, mais nous l'avons retrouvée en menu morceau. Elle avait été enfermée dans l'emmurement de l'ouverture de la porte et nous avons retrouvé les clous forgés. D'accord. Et même la chevillette.
Donc si je comprends bien, depuis le début que nous venons ici, vous avez découvert énormément d'éléments au fur et à mesure que vous avanciez dans la découverte de ce château.
Voilà, chaque journée apporte son lot de découvertes et c'est un vrai plaisir de creuser et de retrouver tous les témoins de la vie ancienne, de la vie de ce château, mais aussi de la région et de la vie campagnarde.
Alors merci Françoise de toutes ces explications, mais j'aperçois une entrée dans cette pièce qui est noire d'ailleurs, enfin il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que c'est Françoise ?
Alors, c'est le troisième élément de confort. Dans une chambre seigneuriale, premier élément de confort, la cheminée, le feu. Deuxième élément de confort, des latrines sécurisées puisqu'il n'y a pas d'archère et le siège descend dans l'épaisseur du mur. Donc, on ne peut pas être tué par en dessous. D'accord. Et troisième élément de confort, la chapelle puisque demain, nous allons combattre. Nous allons peut-être être tués ou tuer un prochain et il faut remettre son âme à Dieu.
Alors, nous rentrons par cette porte qui est vraiment petite. Très petite, et la lumière apparaît, bien sûr, mais lumière d'aujourd'hui. Ah, l'acoustique change un tout petit peu.
L'acoustique change. Voilà. Nous nous trouvons donc dans une tour de garde encore.
Et oui.
Avec
et
des canonnières sur les quatre côtés. Alors là, ici, cette pièce, l'arrivée dans cette pièce a été une surprise, parce qu'évidemment, c'était muré, mais une fois enlevées les pierres, nous avons eu l'immense surprise de trouver une salle pleine de foin.
D'accord.
De foin, de paille. Et cet élément a fait éponge et a permis de garder la polychromie sur les murs.
Ah, effectivement, oui.
Donc, la polychromie, nous n'y avons pas touché. Elle est dans son jus. France 3 Télévisions était venue avec un scanner en 3D qui a permis d'appréhender la représentation de cette polychromie. Donc, on voyait en haut à gauche du mur les ailes d'un ange et qui veille un corps en transversal, à l'ocre bien sûr, donc un religieux, sans doute un évêque, avec la mitre et la crosse.
D'accord.
Et partout ailleurs, il y a des fresques qui ont besoin d'être restaurées, mais qui sont protégées par un enduit chaulé, sans doute posé par les paysans au moment de la Révolution française.
Je fais juste une petite aparté. L'émission dont vous parlez a été enregistrée en 2019, c'est ça ?
Oui, c'est cela.
Voilà. Donc, dans cette chapelle, il y a un certain nombre d'éléments, Françoise. Vous pouvez nous décrire un petit peu.
Alors, cette chapelle est toute petite. Elle est de la taille des petites tours. Et nous étions très étonnés de la messe qui pouvait se dire ici pour autant de personnes. En fait, le prêtre se tenait à l'est, face à Jérusalem.
Oui, alors donc quand nous rentrons par cette petite porte de la chapelle, c'est donc à droite.
Voilà, juste en face. La famille du Seigneur se tenait en face du prêtre. Les officiers se tenaient pour écouter la messe dans la chambre qui était nommée avec un grand C, puisque toutes les pièces s'appelaient chambre. Et le prêtre ouvrait la fenêtre et disait la messe par la fenêtre pour la population qui était dehors et pour les sergents d'armes, comme le pape à Rome. C'est la même technique. Et lorsque la chapelle a été reconsacrée, puisqu'elle était devenue hors religiosité à partir de 1790, Monseigneur l'évêque de Cahors avait donc reconsacré cette chapelle, si je me souviens bien, en 2018 ou peut-être 2017, et nous avions invité tout le village, les amis, et les personnes qui se trouvaient à l'extérieur dans le parc entendaient très bien cette messe qui était une messe de reconsécration qui a duré plus de 2 heures.
Effectivement. Oui, c'est vrai que l'acoustique fait que, comme la pièce est petite, ça permet de concentrer et de pouvoir entendre à l'extérieur.
Tout à fait. Mmh.
Donc, elle est composée d'un certain nombre d'éléments, Françoise, dont évidemment un crucifix en haut à droite, hein, bien sûr, sur le mur dont vous venez de décrire avec ses ailes d'ange et cet évêque avec mitre et crosse. Et d'autres éléments peut-être que vous pouvez nous expliquer.
Alors, la chapelle est dotée de toutes les donations des amis du château de Lentis, donc une icône orthodoxe mais qui a été offerte par des Vénitiens, une icône offerte par une famille russe, une icône offerte par des Roumains, une icône vietnamienne, un calice australien, une cathèdre offerte par une famille qui avait trouvé ce trône dans son grenier et qui l'a offert au château, et Jeanne d'Arc offerte par les prêtres de Gourdon.
Marie-Madeleine, peut-être quelques mots sur la cathèdre ?
Oh, c'est une cathèdre assez simple, en bois naturel. Elle a 2 accoudoirs à crosse, c'est-à-dire retournés. Et voilà, et le coffre est droit et un panneau rectangulaire et carré sur les côtés. Mmh. Elle est toute simple, mais elle est belle parce que elle est en pin, je pense, ou il y a un peu tous les bois, il me semble, mais des bois clairs. Hein.
D'accord. Voilà. Et donc, merci pour cette explication, Marie-Madeleine. Et donc, les bouches à feu que nous voyons, les 4 bouches à feu, sont bien entendu fermées.
Les bouches à feu sont fermées, alors sans doute par le vœu des ecclésiastiques au XVIIe siècle, mais nous les avons laissées fermées, évidemment.
Donc là, on aperçoit toujours ce plafond à la chaux, enfin,
voilà, la matière, voûte.
La voûte
en casemate qui est chaulée. Je l'ai chaulée puisqu'à cet endroit, il n'y avait plus de fresques, mais on voit déborder sur la voûte des restants, des reliquats de fresques, ce qui indique donc que toute la pièce était peinte. Et la difficulté de ces fresques, c'est qu'il y a plusieurs couches. C'est-à-dire que lorsqu'une fresque était abîmée, on repeignait dessus. Et donc, la difficulté pour dégager ces fresques est de savoir où est-ce qu'on s'arrête, à quelle époque on s'arrête. Donc, il faudra vraiment des spécialistes de l'école du Louvre pour faire ce travail qui n'est pas pour l'instant prévu au programme.
Alors, Françoise, nous allons ressortir de cette très jolie chapelle, passer par cette chambre à l'escarboucle, avec le sol en escarboucle, et nous allons descendre dans les sous-sols.
Voilà, je vous emmène maintenant dans toute la partie à découvrir, puisque le château est encore partiellement enterré.
Très bien, bah écoutez, nous vous suivons, Françoise, et nous repassons donc par cette chambre. Voilà, vous allez voir un petit peu le changement d'acoustique. Voilà, et nous la regardons encore avec admiration par tout le travail que vous avez pu faire depuis quelques années, une trentaine d'années, Françoise.
Oui, effectivement.
Et nous allons reprendre ce grand escalier par lequel nous sommes montés au premier étage de ce château entouré de tapisseries. Alors, nous redescendons par l'escalier, ce grand escalier par lequel nous sommes arrivés au premier étage. Et nous arrivons à la gauche de l'escalier, devant cette grande porte en bois qui fait pratiquement face à la porte d'entrée du château. Alors déjà, cette grande porte en bois est-elle d'origine ?
Non, elle n'existait plus. La voûte existait partiellement sur la droite, le reste était tombé au sol. Donc ça a été changé puisque les pierres étaient très abîmées et nous avons installé une porte puisque la porte n'existait plus. Par contre, les clous était resté sur le sol.
D'accord. Alors Françoise, vous allez nous ouvrir cette porte et nous allons découvrir derrière d'autres pièces, peut-être à continuer cette fois-ci de restaurer. Voilà. Alors, chers amis auditeurs, cette porte s'ouvre sur un escalier qui descend et que nous allons descendre jusqu'en bas, où nous avons comme un plancher, ou comme... comment on peut appeler ça, Françoise ?
Ce n'est pas un plancher, c'est quelques planches posées pour éviter de tomber s'il y a une continuité trop brutale de l'escalier en dessous.
Ah, voilà, très bien. Oui, ça c'est la sécurité,
c'est une sécurité.
Du lieu. Alors, nous arrivons, alors cette fois-ci, voilà, sur cette espèce de, comme vous dites, plancher. Alors là, quelques salles qui sont à refaire. Voilà. Alors, nous allons commencer par la gauche. Oui. Alors, Françoise, nous arrivons dans une... Nous passons là... Ah, ça a déjà quand même été un petit peu refait, là.
Ah oui, ça a été refait, voilà. Puisque c'était écroulé.
Voilà. Et alors, c'est une collection de pierres que nous avons
alors,
à gauche.
Là, c'est une collection de pierres. C'est l'ancien musée des pierres fossiles et géologiques du Lot, qui a dû fermer, malheureusement, avec le Covid. Ah. Et Paris nous a demandé d'héberger cette collection au château, malgré que nous n'ayons pas de pièces pour l'instant dédiées
D'accord.
pour cela. Mais vous voyez donc à votre gauche... une pièce voûtée qui est en cours de déblaiement.
Voilà, que vous avez bien sûr découvert.
Que nous avons découvert au fur et à mesure. Donc, tel que vous voyez le sol,
oui.
fait de caillasses, on ne peut pas dire des pierres, c'est du tout venant et de terre, tout est damé, il faut tout sortir. Donc, vous imaginez comment était le dessus du château. C'était plein comme ça sur 25 mètres. Alors, nous creusons. Fou. En créant une espèce de fossé tout autour, puis ensuite un fossé plus intérieur jusqu'à rejoindre le centre de la pièce. Et quand tout est nivelé, eh bien nous creusons pour enlever à nouveau une couche. Alors toute la terre est tamisée et toutes les pierres sont nettoyées. Alors, vous voyez à droite, dans l'épaisseur du mur, ce mur qui fait quand même à cet endroit 2,80 m d'épaisseur, une ouverture, c'était pour enfoncer, pour installer un canon qui tirait dans les fossés.
D'accord. Ce qui veut dire, si je comprends bien ce que nous voyons, qu'il peut y avoir encore d'autres salles en dessous ?
Oui, d'après les archives, dessous se trouvent encore les caves. Ces salles ont encore une architecture aristocratique. C'était des salles pour l'entraînement des officiers. Donc, des belles salles. D'ailleurs, vous voyez que la voûte, qui a été quand même enfouie pendant plus de 200 ans, n'a pas bougé du tout.
Et c'est des grandes salles, de belles également.
Ouais, belles sont salles, des salles qui font 100 mètres carrés.
Ah oui, c'est ça.
Non, tout à fait. Qui n'y paraît pas parce que tout est plein de gravats. Donc, depuis 30 ans, nous sortons des gravats.
D'accord.
Ainsi, un peu chaque jour, de manière à pouvoir continuer. On ne sait pas jusque quand, puisque nous ignorons exactement ce qui se passe en dessous.
Est-ce qu'on
y descend par un escalier ? Ou y aura-t-il une trappe ? Tout cela, c'est en dessous.
Mystère. Alors, à cette salle, il y en a une autre. Voilà, nous repassons par ce... Comment on peut appeler ça pas
un
plancher, mais un passage sécuritaire. Voilà. Et nous arrivons à une autre salle. Voilà, alors cette fois-ci, nous descendons une marche. Ah, celle-ci est déjà, comment dire, bien arrangée.
Voilà, elle est un peu plus dégagée. La voûte est d'époque médiévale. Vous voyez là ces ouvertures qui étaient placées de manière à pouvoir positionner une échelle et un homme pouvait tirer l'arbalète.
D'accord.
Donc, puisque ça donnait dans les fossés. Ces salles n'étaient pas enterrées, elles étaient hors sol.
D'accord.
Alors dans cette salle, nous avons la mauvaise surprise d'avoir une remontée d'eau.
Ah, d'accord.
Puisque quelque part en dessous, nous devrions trouver une trappe ou un escalier qui descend dans les caves. Et dans cette cave, existe un puits. qui est bouché, qui est démoli, obstrué, et par capillarité le remonte. Mais nous avons été à Toulouse, à l'Institut de géographie, et le tracé souterrain montre que la rivière, la petite rivière de Dégagnac, monte sous notre colline, fait siphon, et ce qui permettait à ce château, en cas de siège, d'avoir de l'eau.
D'accord. D'accord. Oui, celle-ci, on voit que vous avez vraiment aplani le sol, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres salles en dessous.
Ah oui, voilà.
Toujours pareil.
De toute façon,
hein.
Il y a certainement des salles en dessous. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Tout ça, c'est le mystère du château de Lantis, voilà. Qui se découvre de mois en mois, de semaine en semaine et d'année en année.
Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, nous terminons sur ce mystère du château de Lantis. Une surprise à chaque pas, je le répète encore. N'hésitez pas à venir le visiter, c'est extraordinaire et une histoire fabuleuse. Merci Françoise de nous avoir accueillis tout au long de cette dizaine d'émissions.
Merci Martine, merci Marie-Madeleine.
Voilà, merci Marie-Madeleine également. Et à très bientôt, chers auditeurs, pour la découverte d'un autre château. Pour l'émission « Avoir château » dans le Lot.
Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir.
C'était « Avoir château dans le Lot », une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.